J'aimerais vous inviter à tourner avec nous dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Matthieu. On va aller ensemble au chapitre 22, verset 41. Ne vous inquiétez pas, je ne recommencerai pas la prédication de dimanche dernier. On va lire, mon épouse va nous lire Matthieu 22, verset 41. Jusqu'à Matthieu 23, verset 12. Maintenant, si on a des visiteurs qui auraient besoin d'avoir une Bible pour suivre, c'est important, on va exposer la parole de Dieu, c'est important que vous puissiez suivre. Est-ce que quelqu'un aurait besoin qu'on lui apporte une Bible tournée dans Matthieu 22? Quelqu'un aurait besoin? Oui, ici à l'avant, s'il vous plaît. Il y a un placeur qui va vous apporter ça. Madame Caroline. J'aimerais ça saluer, je ne sais pas si Marie-Lise est sortie de la pièce là-bas, où est-ce qu'ils sont? Guillaume est sorti, puis Nathalie est là-bas avec Marie-Lise. Guillaume, tu vas te lever pour représenter la famille Després? Tu vas te lever. On a les Després avec nous. C'est leur premier dimanche avec nous, avec Nathalie puis avec Marie-Lise. Nathalie, le petit bonhomme qui vient d'arriver. Puis en même temps, Mme Chatté, Yvonne Chatté est venue me dire tout à l'heure que Amélia Rose, la fille d'Herman Junior et d'Anna, est née hier en pleine santé. Alors, on veut féliciter aussi les grands-parents parce qu'ils s'en sont ici. Alors, il y a des joies à travers des cœurs troublés pour le Chili. Hein? On va prier tout à l'heure, je vais vous donner quelques nouvelles aussi, mais on va aller ensemble dans la lecture de la parole de Dieu avant d'aller dans la prière. Alors, on va écouter la parole de Dieu, Matthieu 22, verset 41 à 23, verset 12. Matthieu 22, 41.
Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler « Rabbi », car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.
Amen. Merci. Merci, chérie. Simplement vous donner quelques nouvelles avant d'aller dans la prière des familles dont j'ai connaissance. Alors, si jamais vous avez conscience qu'il y aurait d'autres situations, peut-être venir me le mentionner après le service, s'il vous plaît. Mais évidemment, Herman et Yvonne viennent du Chili. Les Bascunan, Antonio et Hélène, sont au Chili. Pamela aussi. Marisol vient du Chili. En fait, elle a de la famille qui est à Concepción. Alors, pour autant qu'on sache, il n'y a personne, il n'y a aucune famille qui a perdu des proches dans ça. Par contre, évidemment, il y a beaucoup de tristesse. L'infrastructure est gravement affectée là-bas. Ça va prendre des mois, peut-être des années pour certains endroits à rebâtir. C'est sûr que ce n'est pas Haïti. Le Chili est un pays qui est très avancé sur le plan de l'ingénierie. Et donc, on l'a vu hein, au niveau des effondrements. Il n'y a rien de comparable. Mais en même temps, juste de voir ton pays comme ça, qui est dévasté. Et je pense à Claudia. Est-ce que Claudia est ici? Juste me montrer un petit bout de doigt, là. Claudia, qui a eu quand même la confirmation que les parents, Antonio et Hélène et Pamela, sont bien, mais tu n'as pas réussi à leur parler encore. C'est ça? Alors, en bon cœur de fille, elle est anxieuse de pouvoir parler enfin à ses parents. Et évidemment, les communications sont très difficiles. Alors, on vous demanderait de prier pour le Chili, prier pour que Dieu parle aussi à travers ça. Hier, je parlais avec Marisol qui s'en va en visite dans sa famille dans 2 semaines, à moins que les vols soient empêchés ou quelque chose comme ça, et qui a tellement à cœur sa famille, tellement à cœur de gagner sa famille à Christ. De voir aussi un ministère de réconciliation au sein de sa famille. Et on discutait que dire dans des circonstances comme cela. Bien évidemment, si quelqu'un a perdu un proche, je vais faire attention dans ce que je vais apporter. Mais en même temps, lorsqu'on est en train de discuter avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui voient ces choses-là aux nouvelles ou qui voient ces choses-là là-bas, eh bien, les Écritures sont claires, c'est définitivement des avertissements de la part de Dieu. Et c'est certain que c'est chaque décès, chaque mort est un drame. Lorsqu'on place cela dans la perspective de l'éternité, un jour, ce n'est pas un séisme de 8.8 à l'échelle de Richter auquel nous aurons à faire place dans une ville, mais nous devrons faire face au séisme de rencontrer Dieu, notre juge. Et tous ceux qui ne seront pas couverts par le sang de Christ trembleront infiniment plus. Les Écritures sont très claires et Dieu envoie des avertissements. Nous pouvons le comprendre. Nous sommes là aussi pour aider les gens à le comprendre. Pleurer avec ceux qui souffrent, ceux qui sont désolés. Et en même temps, lorsque le moment est venu, lorsque l'Esprit nous conduit à le faire, on doit aussi leur partager la parole de Dieu et leur dire « Prépare-toi ». Prépare-toi, Dieu est toujours au contrôle. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Ce n'est pas un signe de l'absence de Dieu. Ce n'est pas un signe de l'indifférence de Dieu. Ce sont des avertissements de la part d'un Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix et devant lequel tous les hommes devront se présenter un jour. Ceux qui auront fléchi le genou devant Christ de leur vivant se lèveront dans la louange et célébreront l'Éternel, le cœur en paix, entreront dans la paix avec Dieu. Ceux qui ne l'auront pas fait feront face à leur juge. Et ce sont des avertissements que Dieu envoie aux hommes actuellement. Amen. Aussi difficile que ça puisse être à voir, et bien sûr, il faut faire preuve de beaucoup de sagesse lorsqu'on apporte cela, parce qu'il y a des gens qui perdent des proches à travers tout cela. Mais nous n'avons qu'à regarder comment le peuple haïtien continue à se tourner vers Dieu à travers ses souffrances, et nous voyons bien qu'ils ont compris que Dieu est au contrôle. Et c'est ça que j'ai entendu hier lorsque j'ai parlé avec la famille Châté, lorsque j'ai parlé avec Claudia, lorsque j'ai parlé avec Marisol. D'accord? On va aller ensemble dans un mot de prière. Père, en écoutant hier ma sœur Yvonne me parler de sa propre expérience dans un tremblement de terre à 7 points quelques à l'échelle de Richter, Seigneur, j'avais l'impression de mesurer un peu, Seigneur, de notre petitesse. Lorsque tu vois les murs et le sol commencer à faire des vagues comme l'océan peut le faire devant toi, tu réalises alors que nous ne sommes qu'une vapeur, Seigneur, que notre vie tient à un fil et que c'est toi qui règnes dans les cieux. Père éternel, je te prie de venir étendre ta bonne main de grâce sur ceux qui souffrent actuellement au Chili, de la perte d'un proche et qui ont besoin d'entendre la voix du Dieu de toute consolation. Viens te manifester à eux, envoie, Seigneur, auprès de tes enfants pour les entourer, pour leur dire que tu es là, que tu les aimes, Seigneur, malgré la souffrance qu'ils vivent et qu'ils traversent, Seigneur. Ouvre la bouche, Seigneur, de tous tes enfants au Chili actuellement et qu'ils soient tes messagers pour annoncer ton retour imminent, Seigneur Jésus. Pour annoncer que tu es bien vivant et que ces moments de trouble et d'inquiétude sont des avertissements, Seigneur. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs à travers ces choses et que nous puissions comprendre comme des hommes et des femmes sensés les temps et les moments qui sont les nôtres, Seigneur, et que nous ouvrions la bouche, que nous vivions avec intensité notre foi, notre engagement envers toi, que nous n'ayons point honte d'ouvrir la bouche, Seigneur Jésus, et que nous ne gardions pas la bouche fermée lorsque des gens nous disent « Mais où est ton Dieu lorsqu'il y a des tremblements de terre? » Il est dans les cieux et ramasse une somme de colère pour juger les hommes qui méprisent le sacrifice de Christ. Seigneur, donne-leur de craindre Dieu, de mesurer la portée de leur vie, Seigneur, et de s'humilier comme on doit le faire devant toi, Seigneur. Dans ta grâce, viens leur dire tout ton amour, le pardon qu'il y a en Jésus-Christ. Père, j'aimerais te prier pour nous qui sommes assemblés ici ce matin. Nous sommes à la bonne place. Nous sommes assemblés et on a chanté Jésus-Christ. Sois le centre, Seigneur. Eh bien, Seigneur, parle à nos cœurs par ta parole, que tu puisses être le centre de notre spiritualité, que toute la gloire te soit réservée, Seigneur, afin que nous ne tirions pas profit de la religion ou de la spiritualité pour attirer quelques gloires sur nous, Seigneur. Mais au contraire, que nous soyons serviteurs les uns des autres, comme tu t'es fait notre serviteur. Sois avec moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, afin que ce qui sort de ma bouche soit conforme à ta parole, et que ma vie, Seigneur, soit digne de ton nom. C'est seulement par ta grâce, Seigneur, que je peux le vivre. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, on est dans l'Évangile de Matthieu. Quelques jours avant l'arrestation de Jésus, les choses commencent à chauffer. Et si je peux le dire ainsi, c'est Jésus qui met du bois dans le poêle et littéralement qui s'en vient provoquer les événements qui vont conduire à son arrestation. Après avoir écouté pendant un certain temps les questions des pharisiens, des docteurs de la loi de toutes sortes qui viennent à lui, des sadducéens, après avoir répondu à leurs questions, les avoir écoutés, il se tourne à présent vers la foule, mais plus précisément vers ses disciples parmi la foule, pour les mettre en garde contre les docteurs de la loi. Et Jésus commence à passer à l'attaque, si on peut dire. Déjà la semaine dernière, il a mis fin à l'échange avec les docteurs de la loi en leur posant une simple question à laquelle ils n'ont pas été capables de répondre. Nous avons tendance à juger aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces hommes religieux, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, nous avons tendance à les juger de haut, n'est-ce pas? On trouve facilement un peu ridicule les pratiques qu'ils avaient, comme par exemple d'allonger les franges de leurs vêtements, qui étaient un témoignage, un gage de piété, mais de les tenir plus longues que celles des autres Juifs pour dire qu'ils sont plus pieux. Et nous avons tendance peut-être à mépriser ces hommes-là, à les trouver un peu ridicules dans leur religiosité. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est l'histoire de nos cœurs à chacun. C'est une histoire triste. L'histoire des pharisiens, c'est une histoire triste, l'histoire des docteurs de la loi, parce que Dieu leur avait donné le meilleur de ce qu'il a donné aux hommes. Dieu leur avait donné la foi à Israël, il avait donné la révélation, il s'était fait connaître au peuple d'Israël comme il ne s'est fait connaître à aucun autre peuple avant eux. Il leur avait fait connaître son amour pour Israël. Lorsque Dieu est allé racheter son peuple d'Égypte, qui les a tirés de cet esclavage pour les conduire dans une terre d'abondance, Dieu leur a fait connaître son amour d'une manière extraordinaire. Et c'était vraiment phénoménal ce que Dieu offrait à ce petit peuple qui était retenu sous l'esclavage. Aucun espoir de pouvoir renverser la domination égyptienne sur eux. Mais Dieu est allé les chercher et les a conduits à travers le désert, leur a donné une terre d'abondance. Dieu leur a témoigné de son amour d'une manière extraordinaire. Il leur a donné des cadeaux merveilleux probablement le plus beau cadeau que Dieu peut donner à un homme, la piété, le respect pour Dieu. Et ces hommes ont détourné ces choses à leur profit pour attirer la gloire sur eux-mêmes. Dans un sens, je vous dirais que l'histoire des docteurs de la loi, c'est un exemple frappant de la corruption du cœur humain. J'aimerais ça qu'on puisse aborder ces personnages ce matin en essayant de réduire un peu la distance entre eux et nous et voir dans quelle mesure nous pouvons leur ressembler et dans quelle mesure leur cœur n'est pas si différent de notre propre cœur qu'il s'agit vraiment du cœur de l'homme en général. Dieu leur avait enseigné la piété et ils l'ont détournée à leur profit. La piété, c'est quoi? C'est un attachement respectueux à l'égard de Dieu. C'est ça, la piété. La piété, c'est saisir qui est Dieu, saisir qui je suis et comprendre où je dois me situer à l'égard de Dieu pour m'attacher à lui respectueusement. La piété devrait inévitablement me conduire à aimer Dieu de tout mon cœur, l'aimer vraiment, aimer mon prochain aussi. C'est ça que la piété devrait produire en moi. Mais la piété ne doit certainement pas servir à te mettre de l'avant, à te glorifier, à attirer l'attention des hommes sur toi. La piété, c'est tout sauf cela. Prier, par exemple, comme il le faisait pour être remarqué, ce n'est pas de la piété, c'est de la publicité. C'est du marketing personnel. Pensez-y. Fermez les yeux en s'adressant à Dieu dans l'espoir secret qu'on remarque ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas de la piété. C'est du marketing personnel. C'est de la publicité pour ma personne que je suis en train de faire. C'est assez abominable comme pratique, n'est-ce pas? C'est d'une hypocrisie incroyable. Et pourtant, j'ai le goût de dire, c'est tellement humain. Je veux dire, qui d'entre nous, lorsque nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, impressionnés par les prières des chrétiens? J'ai entendu quelquefois dans les derniers mois des gens qui ne connaissent pas l'Évangile et qui entendaient des chrétiens prier et qui ne comprenaient pas pourquoi nous prions spontanément, sans dire des prières toutes faites, sans répéter des prières toutes faites. La raison est simple, on a compris l'Évangile, on a saisi l'Évangile, nous lisons les Écritures, tout ceci alimente notre cœur et c'est des louanges qui débordent. Mais qui d'entre nous, quelque temps après sa conversion, en entendant des chrétiens prier comme ça, n'a pas eu hâte de pouvoir faire des belles prières comme ça? Peut-être que je suis le seul. Peut-être que je suis le seul comme ça, qui je fermais les yeux puis... Oh, j'ai des belles choses à dire, puis je ne suis pas tout seul en plus pour les dire, Seigneur. Ça ressemble tellement au cœur humain, en fait, ce qu'ils ont fait là. Alors, le Seigneur Jésus nous sert ici une mise en garde. Il y a une belle leçon sur le cœur de l'homme. Le grand réformateur Jean Calvin, en parlant du cœur de l'être humain, parle de dépravation totale. Pour essayer de définir l'effet que la chute, le premier péché, a eu sur l'être humain. En raison de la chute, nous héritons de nos pères une nature déchue et dépravée, et sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, nous détournerons toujours à notre profit les meilleures choses que Dieu nous donne, les plus beaux dons que Dieu peut nous donner, les plus beaux talents que Dieu peut nous donner, nous allons chercher à les détourner à notre profit. C'est un effet direct de la corruption de notre cœur qui est venue avec le péché. Nous sommes totalement dépravés. Dans les meilleures de nos intentions, il y a encore de l'orgueil et le désir de se mettre de l'avant. C'est notre tendance naturelle. Nous sommes pécheurs par nature. Et les pharisiens et les autres docteurs de la loi nous sont donnés un exemple de ce que nous ne devrions pas être, un exemple de ce que nous ne devrions pas faire. Alors, après avoir longuement discuté avec les pharisiens, Jésus s'adresse à présent à la foule et plus précisément à ses disciples pour les mettre en garde contre les pharisiens et les scribes en général. Maintenant, je voudrais juste dire, Jésus n'en a pas contre tous les docteurs de la loi. D'accord? Vous vous rappellerez peut-être Nicodème qui est venu poser des questions à Jésus. Pas si longtemps, Jésus a dit à un docteur de la loi, « Tu n'es pas loin du royaume des cieux. » Mais Jésus est en train d'adresser un phénomène ou une pratique qui était assez généralisée parmi les docteurs de la loi, et c'est ça qu'il est en train d'attaquer. Voyez-vous, ce que Jésus nous rappelle dans le passage ici, c'est que les scribes et les pharisiens étaient ceux qui enseignaient la parole de Dieu au peuple. C'est leur rôle, c'était le rôle qu'ils s'étaient donné. Ces hommes-là avaient aspiré à plonger les regards dans la parole, à maîtriser la parole de Dieu, à enseigner la parole de Dieu. Ils enseignaient la loi qui avait été donnée à Moïse de la part de Dieu. Ils étaient donc, dans un certain sens, assis sur le siège de Moïse ou assis sur la chair de Moïse, comme si Moïse avait enseigné la loi derrière une chaire. Parce qu'ils étaient là pour enseigner la parole de Dieu. Maintenant, personnellement, en étudiant le passage, en lisant le passage, je crois que Jésus est en train de faire de l'ironie ici. D'accord? Il commence en disant au verset 1 et 2, « Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Je pense que Jésus est en train de faire de l'ironie ici. Disons que Jésus a déjà démontré à travers le chapitre 22 et à travers plusieurs chapitres précédemment que la théologie de ces hommes-là, leur compréhension des Saintes Écritures n'était pas toujours juste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il va les reprendre à plusieurs reprises en disant, « N'avez-vous pas lu, vous qui êtes censés enseigner la vérité? » Il vient de dire aux Sadducéens un tout petit peu plus tôt concernant la résurrection. Jésus leur dit au verset 29, Matthieu 22, 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Je pense que Jésus est en train de faire de l'ironie ici lorsqu'il leur dit « Faites tout ce qu'ils vous disent » parce que Jésus a démontré à plusieurs reprises que certaines choses qu'ils enseignaient n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. C'est comme si Jésus était en train de dire « Si vous portez attention à ceux qui prétendent être assis sur le siège de Moïse, ne faites rien de plus que les écouter. Ne les imitez surtout pas. » En d'autres mots, Jésus leur dit, « C'est bon, écoutez ce qu'ils disent lorsqu'ils enseignent conformément à la parole de Dieu, mais ne les imitez pas de grâce, parce qu'ils ne sont pas des modèles pour vous. » C'est évident que Jésus ne prenait pas les docteurs de la loi comme de grandes références en termes de connaissance de la Bible. Et c'est ce qui m'amène à dire que, d'après moi, Jésus est ironique ici, lorsqu'il est en train de dire, « Très bien, ceux-ci sont assis sur la chair de Moïse, alors écoutez-les, mais de grâce, ne les imitez pas. » Enfin, l'élément important, c'est surtout que ces hommes enseignaient de la piété, un respect envers Dieu, un attachement à Dieu, mais qu'ils ne craignaient pas vraiment Dieu dans leur cœur et qu'ils n'aimaient pas vraiment leur prochain non plus. Ils se servaient de la foi pour se mettre de l'avant plutôt que de servir leur prochain. Ils se servaient de la foi pour se mettre de l'avant plutôt que de servir leur prochain. Ainsi, Jésus dit, « Ils enseignent toutes sortes de lois écrasantes, mais ils n'aideront pas ceux qu'ils enseignent à marcher selon ses préceptes. » C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Ils enseignent la loi, mais ils ne vont pas vous montrer comment le vivre. Eux-mêmes ne cherchent pas à vivre toutes ces choses sérieusement. Les pharisiens enseignaient toutes sortes de lois, des traditions qu'ils avaient ajoutées à la loi, et tout ceci devenait extrêmement lourd à porter. Et ils n'étaient pas là pour incarner cela véritablement et aider les gens à vivre ça. Ils déposaient des fardeaux qui étaient lourds sur les épaules de ceux qui les écoutaient et ils n'étaient pas eux-mêmes des êtres gracieux. Et ça, c'est tout un contraste avec Jésus-Christ. J'aimerais ça faire une parenthèse ici. Parce que Jésus se présente comme un autre modèle. Dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Lorsqu'on lit l'Évangile de Matthieu, lorsqu'on lit les Évangiles, on découvre en Jésus un maître qui est à la fois extrêmement exigeant et gracieux. Il n'y a pas de plus haut standard de sainteté que ce que Jésus-Christ nous présente. Êtes-vous d'accord? Il ne s'agit plus seulement de ne pas aller vers la femme de mon prochain, mais même de fermer les yeux pour convoiter. Déjà, je suis adultère. Il ne s'agit plus seulement de ne pas aller tuer ou attaquer physiquement mon prochain, mais de ne pas entretenir de la haine contre lui. Il n'y a pas de plus haut standard de sainteté que ceux présentés par Jésus-Christ. Jésus était donc un maître extrêmement exigeant, mais en même temps extraordinairement gracieux et compatissant. Lorsqu'on lit les quatre évangiles, on découvre combien Jésus est gracieux, il est patient et toute son œuvre est une œuvre de grâce. Il vient pour nous offrir le pardon. Alors, suivre les instructions de Jésus, c'est suivre les instructions d'un maître qui est mort pour que tous mes manquements me soient pardonnés. Voyez-vous, suivre un maître qui est prêt à me pardonner, il y a de l'espace pour apprendre. Il y a de l'espace pour faire des fautes. Je suis un être pécheur par nature. Si le maître qui m'instruit est gracieux et compatissant, il y a de l'espace pour que je cherche à lui ressembler. C'est ça, suivre Jésus-Christ. Quand tu relèves les yeux, après avoir chuté, après avoir péché, quand tu relèves les yeux pour regarder à Jésus-Christ comme maître, toujours, son regard sur toi est un regard de compassion. En fait, la seule chose que Jésus dit, lorsque tu pèches, quand tu tombes, quand tu t'éloignes de moi, tout ce que je te demande, c'est viens à moi. Reviens à moi. Reste pas dans ton péché. Ne cours pas après des idoles. Ne commence pas à t'apitoyer sur ton sort, jugeant que tu es tellement indigne, fais juste relever les yeux et viens à moi. Ça, c'est le maître que nous servons. Ça, c'est mon rabbi à moi. Il y a de l'espace pour apprendre. L'ironie dans tout ça, c'est que le seul maître qui était entièrement parfait, le seul qui aurait été justifié de dire « Soyez comme moi, je suis parfait », c'est Jésus. Et celui-là est le maître le plus gracieux qui existe. Voyez-vous, ces pharisiens, ces docteurs de la loi, et qui que ce soit ici dans cette salle, aucun d'entre nous pourrait à juste titre s'élever au-dessus des autres. Est-ce que j'ai raison? On est tous des pécheurs. Ces hommes-là étaient des pécheurs. De quel droit pouvaient-ils s'élever au-dessus des autres et être impatients? Mais par nature, voilà ce que nous sommes. Chaque fois que nous commençons à former quelqu'un, chaque fois que nous sommes dans une position d'autorité, chaque fois que nous sommes dans un rôle d'influence, notre tendance naturelle, c'est de nous estimer supérieurs aux autres. Nous sommes des exemples, donc supérieurs aux autres. Pourtant, le seul qui est vraiment supérieur aux autres, le seul maître qui est sans faute, Jésus-Christ, est le plus compatissant d'entre tous et le plus patient, le plus gracieux. C'est pourquoi Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh, je vais vous parler de sainteté. Vous allez commencer à trembler. Mais je vais payer le prix pour toutes vos fautes. Et vous allez avoir l'espace pour vous repentir. La seule chose que je vais vous demander, chaque fois que vous allez tomber, ne restez pas dans votre péché. Ne restez pas là. Relevez la tête et regardez à moi. Revenez à moi. Et ça, c'est mon rabbi, c'est celui que moi je suis. Ça, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître. Ces hommes-là étaient des hommes durs, qui déposaient de lourds fardeaux, qui n'étaient pas gracieux et qui ne faisaient pas preuve de compassion. Ils se servent de leur position et de leur autorité, non pour servir Dieu, mais pour servir leur propre égo. Et le problème avec les pharisiens, ce n'est pas seulement dans le fait que ces hommes faisaient porter de lourds fardeaux sur les épaules des gens avec toutes leurs lois, mais surtout qu'ils faisaient tout cela pour avoir de l'air plus spirituel que les autres. Ils se servaient de leur position, de leur autorité, non pour servir Dieu, comme j'ai dit, mais pour servir leur propre ego. Et on pourrait être tenté de se dire que nous sommes tellement différents d'eux parce que nous ne vivons pas une époque religieuse, nous ne vivons pas dans une société religieuse et nous ne tombons pas dans les mêmes patterns de religiosité, se servant de notre spiritualité pour se voir comme étant supérieur aux autres. Je pense que c'est une erreur grave. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense que Jésus donne ces hommes en exemple parce que nous sommes tous en danger de faire la même chose. Nous sommes tous en danger de nous servir soit d'une position d'autorité, soit de notre spiritualité pour nous mettre en valeur et servir notre propre ego au lieu de servir Dieu et de servir notre prochain. Toute l'histoire de l'humanité nous enseigne qu'il y a un piège pour les pécheurs que nous sommes dans la religion, la spiritualité, et j'oserais l'appliquer ce matin dans l'autorité aussi. L'histoire de l'humanité nous l'enseigne infiniment à travers les religions, à travers la spiritualité. La tendance naturelle de l'homme, c'est de se servir de ça pour mettre en valeur son ego, pour dominer les autres, pour écraser les autres. Et c'est la même chose avec toutes nos positions d'autorité qu'on pourrait être appelé à occuper. Nous avons tendance à nous servir de ces choses pour nous élever au-dessus des autres. Toute l'histoire de l'humanité nous l'enseigne, que ce soit dans l'Église, dans nos foyers, dans nos relations, au travail. C'est notre tendance naturelle. Alors, ne faites pas l'erreur de regarder ces hommes et de dire, ah, eux autres, ils étaient religieux, moi, je ne suis pas comme ça. Ben, déjà, est-ce que ce n'est pas le discours de l'orgueilleux? Moi, je ne suis pas comme ça. Est-ce que c'est l'esprit qui dit ça ou c'est ta chair? Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme le reste des hommes, Seigneur. Non, tu es comme le reste des hommes, mon ami. Quelle est la solution? Quel est le remède à tout ceci? Et il y a un remède pour ça. Christ nous le donne ici. Je dirais qu'il y a deux ingrédients au remède. On a déjà chanté un abondamment dans notre louange. Le premier ingrédient, c'est de reconnaître qu'il y a un seul maître qui est assis, non pas sur la chair de Moïse, sur le siège de Moïse, mais assis à la droite de Dieu, Jésus-Christ, et un seul Père qui règne dans les cieux. C'est pour ça que j'ai demandé à Esther de lire tout à l'heure les versets 41 à 46. Est-ce que ce n'est pas intéressant de remarquer que, alors que Jésus parle des pharisiens comme étant assis sur la chair de Moïse, il le fait tout de suite après avoir dit, « Oui, mais le Fils de Dieu, lui, ne sera pas assis sur la chair de Moïse. Il va être assis à la droite de Dieu. » Est-ce qu'il y en a un seul ici qui peut prétendre être assis à la droite de Dieu? Personne. Il y en a un seul qui est assis à la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, lequel d'entre nous pourrait prétendre prendre sa place, prétendre être maître? Le seul qui est notre maître, c'est celui qui est assis à la droite de Dieu, Jésus-Christ, celui qui règne dans les cieux. Et la solution, c'est de reconnaître que nous servons tous un seul Dieu, nous suivons tous un seul rabbi, un seul maître, nous avons tous un seul chef, Christ. Il n'est pas assis sur la chair de Moïse, mais il est assis dans les cieux, à la droite de Dieu, et il règne. Alors, lorsqu'une personne décide de déplacer le centre de l'univers, de son univers personnel, d'accord, c'est ça qui se passe. À la conversion, c'est ça qui se passe. Lorsqu'un individu décide de déplacer le centre de l'univers, de son univers personnel, de son « je me moi » pour que le centre devienne Jésus-Christ, un seul maître, un seul qui est assis à la droite de Dieu, les choses change. C'est ça la conversion. C'est ça devenir chrétien. C'est ça le christianisme. C'est lorsque je décide à un certain moment donné que le centre de l'univers, de mon univers, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça en arrivant à l'adolescence. Vous savez, il y a un moment où le cerveau humain commence à avoir des capacités d'abstraction qu'on n'avait pas lorsqu'on était tout petit. Puis à un certain moment donné, beaucoup de personnes l'ont expérimenté. À un certain moment donné, tu réalises que le centre de la planète Terre, ce n'est pas ta maison. Avez-vous déjà vécu ça? C'est comme si tu prends conscience, tu dis, il y a des gens pour qui Saint-Hubert, ce n'est pas important. Aïe, aïe. Puis là, comme j'entends les choses, ça a l'air que New York l'est peut-être plus que Montréal. Vous n'avez pas vécu ça à l'adolescence? Ça, c'est lorsque notre cerveau arrive à cette capacité d'abstraction. La conversion ressemble un petit peu à ça. C'est un moment où l'Esprit de Dieu vient, éclaire ton cœur, et tu décides que le centre de ton univers, ce n'est plus toi. C'est Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Et il y a des choses qui changent en profondeur dans tes perspectives de la vie. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Tu ne vis plus les choses de la même manière. S'il y a un seul Seigneur qui règne dans les cieux, un seul Dieu, un seul Seigneur qui est assis à la droite de Dieu, pourquoi est-ce que je voudrais lui enlever la gloire en attirant les regards sur moi? Pourquoi est-ce que je voudrais que les gens détournent les regards de Christ pour les tourner vers moi? Est-ce que cela ne devient pas profondément ridicule comme idée? Le centre de l'univers, c'est Dieu. Le seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et la solution pour réussir à arrêter de détourner toutes les bonnes choses que Dieu me donne à mon profit pour ma propre gloire, le remède est justement dans une reconnaissance, une profession de foi, une confession de ma bouche qu'il y a un seul Seigneur, un seul Maître, un seul qui est vaincu la mort, un seul que Dieu est élevé au-dessus de tout nom, c'est Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Amen. Et c'est la solution. C'est la solution dans l'Église, c'est la solution dans mon foyer, c'est la solution au travail. Élever Jésus-Christ au-dessus de tout autre. Un mot pour tous ceux qui sont sceptiques à l'égard de la foi. Vous savez, une des critiques qu'il y a souvent contre la religion, contre le christianisme, c'est que la religion sert à des hommes pour en dominer d'autres. N'est-ce pas? C'est souvent ça qu'on entend. Et je veux dire, l'histoire de l'humanité parle par elle-même quand même. On ne peut pas fermer les yeux sur toutes les abominations qui ont été faites au nom de Dieu. Tous les abus qui ont été faits même au nom de Jésus-Christ. Alors des gens demeurent sceptiques, restent à l'extérieur, ne s'approchent pas de Christ, ne s'approchent pas de l'Église de Jésus-Christ en disant « Oui, mais tout ça, c'est l'opium du peuple ». Ça sert à ce que des puissants dominent d'autres. Mais à la lumière de ce passage, vous devez admettre que ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Et lorsqu'un individu décide que le centre de l'univers, ce n'est plus lui-même, c'est Jésus-Christ, que dans l'Église, il n'y a pas d'autre maître que Jésus-Christ, et que par conséquent, la seule réponse valable, c'est que nous soyons tous serviteurs les uns des autres. Ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas que dans l'Église, la religion serve à des hommes pour en dominer d'autres. Voyez-vous, ça c'est ce que des hommes mal intentionnés ont fait avec le message de Christ et il y en aura toujours. Mais le message de l'Évangile, c'est un message d'humilité où nous sommes tous frères et personne n'est appelé à dominer un autre ou à se servir de la spiritualité pour s'élever parmi les autres. Alors si tu restes en marge de l'Église, en marge de Christ, toujours méfiant à l'égard de tout ce qui vient de la parole de Dieu, viens plonger tes regards dans le message de l'Évangile. Écoute ce que Jésus a à dire. Cesse de regarder aux hommes, ils sont pécheurs, ils te décevront. Je suis le premier et le plus grand des pécheurs ici. Ne regarde pas aux hommes. Plonge les regards dans l'Évangile. Relève le défi que j'ai lancé il y a quelques semaines. Lis les quatre évangiles dans les prochaines semaines. Viens écouter ce que Christ a à dire sur la foi, sur la religion. Cela ne doit pas servir justement, selon Jésus, à faire la promotion des individus, mais à faire la promotion de Dieu pour le bonheur des hommes, pour la gloire de Dieu. Non seulement la foi en Jésus-Christ ne conduit pas à dominer les autres, mais Jésus-Christ lui-même n'est pas un chef despotique. Alors même dans cette idée que nous sommes là pour adorer Christ, pour élever Christ, pour louanger Christ, même là, Jésus-Christ se démarque d'une manière extraordinaire. Il n'est pas un chef despotique qui dit « Hey, I'm the best, come on! » Nous l'adorons parce qu'il s'est fait notre serviteur. Amen. Nous l'élevons parce qu'il s'est fait notre serviteur en mourant sur la croix pour nos péchés. Vous savez ce qui me réconcilie toujours avec Dieu? C'est la croix de Jésus-Christ. Quand je vois la souffrance qu'il y a dans le monde, quand je vois les cataclysmes qu'il y a dans le monde, quand je vois le sort tellement misérable de tellement d'êtres humains, ce qui me réconcilie toujours avec Dieu, c'est que ce Dieu-là est venu sur la terre mourir sur une croix pour ses créatures. Et je suis réconcilié avec Dieu. Dans mes plus grands doutes, dans mes plus grands désespoirs, cela me réconcilie toujours avec mon Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas un chef despotique, c'est un serviteur extraordinaire et il a été élevé parce qu'il s'est fait serviteur. Un seul maître, un seul Dieu, un seul chef. Premier ingrédient de ce remède. Maintenant, j'aimerais juste faire une toute petite clarification. Jésus n'est pas en train de dire que parmi ses enfants, parmi les chrétiens, il n'y a aucune raison d'user de déférence envers qui que ce soit. Si vous connaissez le reste du Nouveau Testament, il y a des textes qui vous viennent puis vous dites, qu'est-ce que Jésus dit ici? On dirait que ça n'a pas été appliqué comme ça plus tard dans le Nouveau Testament. Par exemple, on voit l'apôtre Paul qui se présente comme un apôtre avec toute l'autorité qui incombe à ce titre-là, à cette fonction-là à laquelle il avait été appelé. Dans la lettre aux Hébreux, on lit dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ailleurs, Paul parle dans la lettre aux Éphésiens d'hommes que Dieu a donné comme pasteur à l'Église. Paul lui-même va dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre Pierre va dire que nous devons honorer le roi, pour nous le chef de l'État. Le chef d'État devrait être honoré. Qu'est-ce que les Écritures sont en train de nous dire ici? Je dirais simplement que nous devons toujours garder à l'esprit que nous avons un seul maître, que nous servons un seul Dieu et qu'en définitive, nous servons et suivons un seul chef, Jésus-Christ. Jamais, au grand jamais, aucun homme ne doit venir occuper cette place dans nos cœurs. Est-ce que je peux le résumer comme ça? Et lorsque j'ai saisi cela, lorsque j'ai compris que j'ai un seul maître, un seul Seigneur, un seul Dieu, que j'honore seulement le nom de Jésus-Christ comme mon maître, après ça, ce n'est plus un problème pour moi d'honorer toute personne autour de moi qui a une position d'autorité. Je sais que je ne suis pas en train de les suivre comme s'ils étaient mes maîtres. Je sais que je ne suis pas en train de les honorer comme s'ils étaient mon Dieu, mon Seigneur. Et je n'ai pas de problème. Je sais qui je suis, je sais qui ils sont, je connais mon Dieu, je connais mon Seigneur. Plus de difficulté à user de déférence envers les autorités parce que les choses sont claires dans mon esprit. Deuxième ingrédient. Le Seigneur nous dit, vous êtes tous frères, alors soyez serviteurs les uns des autres. Alors, une manière simple et pratique de le voir, c'est que nous ne sommes pas là pour nous servir des autres, mais nous sommes là pour servir les autres. Est-ce que je peux le dire comme ça? Une manière pratique de savoir que je ne m'élèverai pas au-dessus des autres, c'est que je dois comprendre, quel que soit mon poste, quelle que soit ma fonction, quel que soit mon rôle, dans toutes les sphères de ma vie, dans l'Église, dans un ministère, dans mon foyer, au travail, dans mes amitiés, lorsque je suis en train de travailler à former un disciple de Jésus-Christ, lorsque c'est clair dans mon esprit, que je ne suis jamais là pour me servir des autres, mais pour servir les autres, je suis en train de mettre mon cœur à l'abri, de détourner la piété, la spiritualité, les fonctions qui me sont confiées, l'autorité qui m'est confiée, de détourner cela à mon avantage. Et c'est vrai dans toutes mes relations, quel que soit mon rôle d'influence. Et plus j'ai de responsabilités, plus cela est vrai. Que ce soit moi dans mon foyer ou dans mon travail pastoral, que ce soit vous au travail, à la maison, à l'école, nous ne sommes pas appelés à nous servir des gens autour de nous, mais nous sommes appelés à les servir. Et si vous le faites bien, et si vous vivez l'Évangile, vous allez scandaliser des gens autour de vous. Parce que voyez-vous, cette pensée-là va à l'encontre de la pensée du monde. Pense à toi. Pense à toi, ça va vite. La vision de l'amour, la vision des relations, la vision de l'engagement est profondément affectée par cette idée égocentrique que je dois penser à moi parce que la vie est courte. Mais lorsque j'ai décidé de déplacer le centre de mon univers du « moi » à Jésus-Christ, la vie est courte et je rachète le temps pour glorifier mon Seigneur en servant les autres, non pas en me servant des gens autour de moi, mais en devenant leur serviteur. Est-ce que c'est une passion dans ta vie d'être le serviteur des gens autour de toi? Si tu demandais à ton épouse cette semaine, as-tu le sentiment que je me sers de toi ou que je te sers? Si tu posais la question à tes collègues de travail, et je ne parle pas de servir l'intérêt de l'entreprise, je parle de servir les gens autour de vous au travail. Qu'est-ce que vos collègues de travail diraient? Toi, tu es quelqu'un qui sait faire travailler le monde pour toi, hein? Ou toi, tu es quelqu'un qui est là pour aider les autres à avancer. Dans vos amitiés, qu'est-ce que les gens diraient de vous? Est-ce que c'est une passion dans votre vie de servir les gens autour de vous? Voilà 2 semaines, j'ai dit une phrase énorme, mais je pense qu'elle est biblique. J'ai dit... Tu aimes, et Yannick aime autant Dieu que la personne qu'il aime le moins sur terre. Je pense que ça reflète les 2 plus grands commandements. Est-ce que tu es quelqu'un qui est passionné pour servir les gens autour de toi? Ou est-ce que tout ceci est un devoir religieux? Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Et on va terminer avec ce passage ce matin. Si vous ne connaissez pas personnellement Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, tous ces discours que vous entendez au sein du christianisme sur l'idée de devenir serviteurs les uns des autres, sont probablement des choses qui peuvent être scandaleuses à vos oreilles. Vous avez l'impression qu'on passe notre temps à se renier nous-mêmes, alors que nous trouvons notre joie à nous donner pour les autres. Vous avez l'impression que nous ne nous aimons plus nous-mêmes, alors qu'au contraire, nous nous épanouissons à servir les gens autour de nous. Lorsque tu réalises que tu es une créature de Dieu, une merveilleuse créature de Dieu qui a été créée pour la gloire de Dieu, et lorsque tu réalises aussi que nous sommes tous pécheurs et que le seul moyen d'être sauvé, d'être libéré de notre égotrip et réconcilié avec Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, ta vie prend une nouvelle direction. Tu commences à prendre plaisir à ne plus te servir des gens autour de toi, mais à prendre plaisir à servir les gens autour de toi. Tu deviens une nouvelle création à cause de cette foi en Jésus. Toutes choses sont maintenant nouvelles. Tes priorités, tes buts, ta manière de voir la vie change en profondeur. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mes amis, notre mission, c'est de prêcher Christ. Notre tendance naturelle, ça va être de grandir dans notre foi et le Seigneur va faire du ménage dans notre vie et notre vie va sembler de plus en plus sainte. Et je pense, dans les faits, va devenir de plus en plus sainte. Mais il y a une tentation, il y a un piège qui vient avec cela. C'est celui de regarder les gens autour de nous avec une certaine hauteur. Plus Dieu fait du ménage dans ta vie, plus tu te sens différent des autres. C'est une erreur profonde. La différence fondamentale entre les autres et moi, c'est que dans sa grâce, Christ m'a révélé la croix et en faisant cela, il a déplacé le centre de mon univers. Je ne suis plus en train de suivre Yannick et ses intérêts. Je ne suis plus en train de suivre aucun homme, mais je suis en train de suivre celui qui s'est livré sur la croix pour mes péchés. Et le reste de ma vie est consacré à chercher sa gloire en me faisant serviteur des gens autour de moi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, c'est un énorme privilège de porter le nom de Jésus-Christ, d'être appelé chrétien, petit Christ. Et Seigneur, que nous soyons vus ainsi, méprisés ou admirés, parce que nous mourons à nous-mêmes, parce que nous nous chargeons de notre croix, parce que nous le faisons avec joie, parce que nous prenons un grand plaisir à devenir serviteurs les uns des autres, parce qu'à nos yeux, ni nous, ni aucun homme n'est plus élevé, seulement Jésus-Christ. Seigneur, sois au centre de nos passions, de notre cœur. Viens animer notre amour pour toi. Que ton amour presse nos cœurs en avant, Seigneur. Que nous rachetions chaque instant, chaque minute à te servir, à nous faire serviteurs les uns des autres. Afin, Seigneur, que ceux de l'extérieur, scandalisés ou attirés, soient intrigués par cette passion qui nous anime, qui produit, Seigneur, de l'amour au milieu de nous, comme ils n'en trouveront pas ailleurs. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. C'est notre joie de te servir et de te suivre. Amen.